C'est la panique. Il veut nous tuer tous. Le roi Nabucodonosor veut éliminer de sa cour tous les sages, les magiciens et les conseillers, parce qu'il estime avoir mis à jour leur imposture. Il leur a demandé une chose qui, d'après lui, devrait être dans leurs compétences. Il veut qu'ils lui racontent le contenu d'un rêve qu'il a eu au cours de la nuit. Or, ils s'en sont révélés incapables. Alors le roi est en colère et décide de les éliminer. On peut lire ça dans le livre de Daniel au chapitre 2. Donc c'est la panique. Mais malgré le danger, Daniel reste maître de lui-même. La peur ne lui fait pas perdre ses moyens. Il s'adresse avec tact et sagesse, nous dit le texte, à Arioc. Arioc, c'était l'homme chargé de la tâche ingrate de superviser la mise à mort de tous les sages, magiciens et conseillers de la cour. D'abord, Daniel cherche à comprendre ce qui se passe. Apparemment, il n'était pas là quand le roi a pris sa décision. Et après avoir reçu les explications d'Arioc, il propose. Sans exclure la peur, on voit que Daniel reste maître de lui-même dans cette situation dangereuse parce qu'il a, lui, des ressources que les autres n'ont pas. Et ces ressources sont une connaissance du vrai Dieu et une relation avec lui. La panique n'a pas le dernier mot parce que Dieu est le secours, le rocher, l'abri de Daniel au sein de cette tempête. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux, que dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Ce sera un moment de prière intense, de supplication, pendant une partie de la nuit. Et puis, dans sa grâce, Dieu accorde ce qui lui a été demandé. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors Daniel se précipite chez le roi au milieu de la nuit pour lui apporter la réponse qu'il exige et qui est la condition de son maintien en vie. Ah non, en fait, c'est pas comme ça que continue le récit. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Donc Daniel ne s'est pas précipité immédiatement chez le roi quand Dieu lui a fait la grâce du miracle de comprendre ce que le roi avait rêvé. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Peut-être parce que c'était la nuit, justement. Mais peut-être que pour une telle affaire, le roi aurait accepté d'être dérangé. On ne sait pas. En fait, une question intéressante, c'est comment est-ce que moi, j'aurais réagi? La Bible, elle est pleine de récits. Et les histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ne sont pas réservées aux enfants, comme on le pense peut-être parfois. Ils sont aussi là pour nous enseigner, nous, les adultes. Alors, à l'époque où ils ont été écrits, les récits avaient le même impact que pour nous aujourd'hui, les films à gros budget. Alors, la suite du récit, il n'est pas question d'un cheval, mais j'ai mis cette image pour montrer qu'en fait, un récit, c'est vivant. Un récit, c'est quelque chose qui bouge. Un récit, ça nous interpelle. Un récit, ça nous fait nous poser des questions. On a envie de rentrer dedans. On se demande comment vont réagir les personnes concernées, on se met à leur place. Et en fait, il est tout à fait approprié de se demander comment est-ce que moi j'aurais réagi à la place de Daniel. Est-ce que je me serais précipitée chez le roi? Est-ce que, vu qu'il y avait du soulagement à la place de la peur, j'aurais fait la fête? Est-ce que j'aurais fait comme Daniel? En fait, qu'est-ce qu'a fait Daniel? Il a remercié son Dieu. Daniel a dit merci. Il a dit merci à son Dieu et ce merci n'est ni rapide ni superficiel. C'est un merci qui est étoffé, qui est mature, qui est riche. Un merci qui est nourri par la connaissance que Daniel a de son Dieu. Et cette connaissance que Daniel a de son Dieu, elle vient d'être consolidée, renforcée par ce qui vient de se passer, par la révélation miraculeuse que Dieu lui a accordée dans sa grâce. Et ce que je vous propose maintenant, et puis ce qu'a annoncé Jean-Marc, c'est qu'on se nourrisse maintenant de cette méditation, de cette prière de Daniel. Alors comme elle est riche, Je passerai vite sur certains points et puis j'en appuierai un peu plus d'autres. Et je vais aussi me permettre un petit peu de sortir du texte lui-même et puis de nous emmener un petit peu ailleurs. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que le roi avait rêvé, ce que Daniel a reçu comme révélation, si vous voulez le savoir ou si vous voulez réviser l'histoire, rendez-vous avec votre Bible dès que vous avez 2 minutes pour lire le chapitre 2 du livre de Daniel. Mais on ne va pas parler du contenu du rêve ici, on va juste rester sur le contenu de la prière. Alors dès le début, Daniel tourne ses regards vers son Dieu. Par une expression de joie, il oriente immédiatement ses regards et nos regards vers notre Dieu. Pas sur ses problèmes, pas même sur le miracle dont il vient de faire l'objet, mais sur Dieu lui-même. Donc, loué soit Dieu, c'est comme ça que commence Daniel. Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours. Dieu est digne de cette attention. Dieu est digne que l'expression de la reconnaissance lui soit accordée de manière totale. Et pour ça, la louange, la reconnaissance ne doivent pas s'arrêter. Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours. La louange a un commencement, mais elle n'a pas de fin. Et c'est le premier point sur lequel je propose qu'on s'arrête un petit peu. Comment est-ce que la louange que nous voulons apporter à notre Dieu peut-elle ne pas avoir de fin? Je vais un petit peu sortir du texte. Alors déjà, quelque chose qui semble assez évident, c'est que notre louange n'a pas de fin parce que notre vie de chrétien ne s'arrêtera pas sur cette terre. Elle continuera dans l'éternité où elle sera parfaite. Elle sera parfaite parce qu'elle correspondra à la fois à ce dont notre Dieu est digne et à la fois à ce que nous sommes et ce que nous serons. Il y a un chant qui dit « Je suis né pour te louer ». Dans l'éternité, notre personne tout entière sera en harmonie avec ce à quoi Dieu nous destine et ce pourquoi il nous a créés. Mais la louange sans fin, c'est aussi aujourd'hui. Alors de quelle manière ? Alors pendant ce qui fait notre quotidien, nous pouvons louer Dieu toujours par des prières éclairs ou en fonction des circonstances. On peut aussi louer Dieu en se sachant constamment enveloppé de sa présence. Tout à l'heure, on a chanté « Ta sainte présence, elle m'environne ». Oui, la présence de Dieu, elle nous environne toujours. Et puis, il y a aussi une autre manière de louer Dieu toujours, dans notre vie quotidienne, dans notre vie aujourd'hui. On est encouragé à ce qu'on vive, ce qu'on appelle des cultes personnels. Des temps que nous prenons régulièrement seuls pour être spécifiquement avec Dieu, pour lire sa parole et pour prier. C'est des temps qui sont essentiels pour une vie de piété vivante et personnelle. Alors dans le dernier lien fraternel, qui est la revue de notre association d'église, il y a un article où l'auteur parle des projets, c'est en janvier, hein. En janvier des fois on fait des projets. Et dans les projets qu'il propose, je vous lis ce qu'il a écrit. Pourquoi ne pas avoir comme projet d'écouter Dieu attentivement en faisant nos délices des Écritures? Et puis il y a une allusion au psaume 119. Quel plaisir quand pour nous aussi, les paroles de l'Éternel sont plus douces que le miel. Donc voilà, avoir comme projet de passer du temps dans la prière et dans la lecture de la parole dans des temps de culte personnel. Qui aime aller à Europa Park? Moi, c'est mon cas. Alors, je ne sais pas vous, mais pour aller, quand on va à Europa Park, moi, quand j'y vais, je me réjouis à l'avance. J'anticipe. Des fois, il y a une frustration parce que le jour, il n'est pas encore là. Alors, peut-être que tout le monde n'aime pas ou ne peut pas aller à Europa Park, mais tout le monde a déjà vécu ça, ce fait d'anticiper un événement chouette, un événement qu'on attend, un événement heureux. Et puis, cette espèce d'impatience joyeuse que ce moment arrive enfin. Et bien moi, ce que je nous souhaite, ce que je propose, c'est de la joie et de l'impatience dans le fait d'anticiper notre prochain moment consacré exclusivement à notre Dieu. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas passer toute notre vie dans ces moments-là. Il y a aussi nos obligations et nos occupations, et elles sont bonnes. Elles font partie de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais qu'on ne se prive pas de la régularité des moments de tête-à-tête de qualité avec notre Dieu. Il y a aussi un chant qu'on a chanté récemment et qui dit « Il y a tellement de joie en ta présence ». Alors pour louer Dieu dès maintenant et à toujours, ne pensons pas seulement à l'éternité, et que nos cultes personnels soient pas comme des rares îlots dans notre vie et isolés les uns des autres, mais qu'ils soient reliés entre eux par la frustration de devoir les arrêter et par l'impatience et la joie de savoir que le prochain est pour bientôt. Alors maintenant, on va continuer à lire cette méditation. Louer Dieu toujours, mais pourquoi ? Daniel donne des raisons. Donc on continue la lecture de cette méditation. À lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. La sagesse de Dieu, voilà ce qui retient l'attention de Daniel. Dieu sait. Il connaît tout. Sa connaissance de chaque détail de l'univers est exacte. L'intimité de chacune de nos vies n'a pas de secret pour lui. La connaissance qu'il a de la complexité des questions géopolitiques est juste et complète. À lui appartient la sagesse. Mais pas seulement. À lui appartiennent la sagesse et la force. Non seulement il sait quoi faire, mais en plus il peut agir. Il a le pouvoir d'utiliser sa sagesse. Sa sagesse n'est pas que connaissance, elle est aussi action. À lui appartient la force, rien ni personne ne peut entraver son action. Ce qu'il décide de faire se fera. Il n'est pas d'obstacle qui tienne devant lui. Et de ce fait, il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et il élève les rois. Le livre de Daniel est une suite de démonstrations par des faits et de révélations par des visions que le Dieu d'Israël, ce petit peuple vaincu et insignifiant sur le plan géopolitique, le Dieu de ce peuple-là est le grand Dieu de l'univers. Et alors au service de cette vérité dans ce livre, il y a les histoires incroyables qui arrivent à Daniel et à ses amis. Et aussi les visions que reçoit le roi Nabucodonosor et Daniel à la fin de sa vie. Le Créateur du monde, le Tout-Puissant, a choisi d'être le Dieu de ce petit peuple, dominé à cette époque-là par le géant babylonien, qui semblait invincible à vue humaine. Et de nos jours, c'est pareil. Dieu domine le monde et règne sur le monde, même si on ne le voit pas. Même si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Même si les tenants et les aboutissants de la réalité nous échappent. Dieu est le maître de nos vies, de nos destinées, et il est aussi le maître du monde, le maître de l'histoire. En ce moment, dans le groupe Delta, nous lisons le livre de l'Apocalypse, dont le message dans les grandes lignes est identique à celui du livre de Daniel. Le peuple de Dieu qui paraît pauvre, petit et qui est persécuté est du bon côté de l'histoire, du côté du Dieu qui règne et qui mène toutes choses à la manifestation de sa gloire, du côté du Dieu qui console les siens et qui les associe à sa gloire, chose incroyable. Le Dieu de Daniel, notre Dieu, fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et il élève les rois. Plus loin dans sa prière, Daniel parle de la sagesse de Dieu en d'autres termes. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Il n'est rien qui puisse lui être caché. À plusieurs reprises dans la Bible, il est fait mention des efforts faits par certains pour se cacher de Dieu. Ils agissent dans les ténèbres, ils ne veulent pas qu'on les voie, ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font. Mais ces efforts sont vains, ils ne sont qu'illusions, parce que Dieu sait ce qu'il y a dans les ténèbres. La lumière brille auprès de lui, son être rayonne de perfection, de pureté, de vérité. Ainsi, Daniel commence sa prière en méditant sur la parfaite sagesse de Dieu. Plus loin, dans la fin de sa prière, Daniel va mentionner la délivrance, le fait que Dieu lui a communiqué le rêve du roi. Mais avant ça, il y a encore une étape. Entre la direction du monde dans sa globalité et sa vie personnelle, il y a un entre-deux. Dieu donne la sagesse aux sages. Et c'est le deuxième point qui m'a particulièrement marqué dans cette prière. et sur lequel je propose qu'on s'arrête un peu. Dieu donne la sagesse aux sages, et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Dieu n'est pas égoïste. Il ne garde pas sa sagesse pour lui, il la communique. Le désir profond de notre Dieu, c'est que nous lui ressemblions toujours plus. Son projet de vie pour nous, c'est que nous devenions toujours meilleurs dans tous les domaines. Alors il ne s'agit pas de compétition, mais il s'agit de devenir ce pour quoi nous sommes faits. Le péché nous défigure et Satan veut nous faire passer à côté de notre identité, à côté de ce que nous sommes. Mais Dieu veut que ses propres qualités à lui grandissent en nous. Devenir nous-mêmes, c'est lui ressembler toujours plus. Et dans cette ligne-là, il communique sa sagesse et sa connaissance. Alors il y a quelque chose qui peut déranger ou interroger dans cette formulation. Communiquer la sagesse aux sages, mais s'ils sont sages, c'est qu'ils ont déjà de la sagesse. Pour la suite, c'est pareil. Communiquer la connaissance à ceux qui comprennent, c'est quoi la logique ? Alors en fait, je pense qu'il y a deux points très importants. Le premier point, c'est que notre sagesse a besoin d'augmenter de plus en plus. Nous avons toujours à grandir dans la sagesse et dans la connaissance. Et le deuxième point, il est dit que Dieu accorde sa sagesse aux sages. Il ne dit pas qu'il accorde sa sagesse à ceux qui ne sont pas déjà des sages. Alors je m'explique. Les sages, ils sont volontaires. Ils sont actifs pour grandir en sagesse. Ils ont déjà appris. Ils ont déjà reçu. Et pour cela, ils ont déjà manifesté l'humilité nécessaire pour reconnaître qu'ils ont besoin d'apprendre. Je vais redire cette phrase. Les sages ont déjà manifesté l'humilité nécessaire pour reconnaître qu'ils ont besoin d'apprendre. Il n'est pas dit que Dieu accorde sa sagesse à ceux qui pensent qu'ils savent déjà tout et qu'ils n'ont rien à apprendre. En d'autres termes, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Dieu ne force pas. Ce sont des volontaires, des assoiffés de sagesse à qui Dieu accorde davantage de sagesse. Même raisonnement pour la connaissance, ce sont à des personnes qui sont déjà en chemin que Dieu accorde la grâce d'avancer davantage. Et en fait, on rejoint là le thème de l'année, j'ai décidé de grandir. Dieu ne force pas, nous avons notre responsabilité. On rejoint aussi le thème de l'année dernière avec ce magnifique verset, Jacques 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » Est-ce que je suis suffisamment sage pour reconnaître que j'ai besoin de la sagesse de Dieu ? Est-ce que je veux, est-ce que tu veux grandir en sagesse, devenir toujours plus ce que Dieu, dans son amour pour toi, pour moi, veut pour nous ? Dans sa bonté, dans sa générosité, Dieu, notre Père, communique sa nature. Notre vie intérieure correspond de plus en plus à notre réelle identité, à ce pourquoi notre Créateur nous a fait, quand nous lui ressemblons de plus en plus. Mais Dieu ne force pas. Il communique sa sagesse à ceux qui sont suffisamment sages pour savoir qu'ils sont assoiffés de sagesse. Alors maintenant, on va en venir au dernier verset de cette prière. On a un petit peu vu « Louer soit Dieu dès maintenant et à toujours », comment on peut le faire. On a vu qu'il veut donner sa sagesse aux sages. Et maintenant, on a le dernier verset. « C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Jusqu'à présent, Daniel était plutôt méditatif, il parlait de Dieu à la troisième personne, et maintenant c'est vraiment une prière, il s'adresse directement à lui. Jusqu'à présent, c'était plutôt des thèmes généraux, et maintenant Daniel parle de lui et de son expérience toute récente. Il remercie Dieu de lui accorder les qualités qui sont en Dieu, il lui remercie de lui donner la sagesse et la force. Quel honneur, quelle grâce, quelle bonté de Dieu. Le projet que Dieu a pour nous de nous rendre toujours plus semblables à lui n'est pas une belle théorie pour faire joli sur le papier, mais ce projet se concrétise réellement. Quelle joie pour Daniel et quelle joie pour nous aussi, quel privilège. Enfin, Daniel vient là où il voulait en venir. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, tu nous as révélé ce que le roi demande. Et c'est là l'événement concret qui a motivé toute cette prière. C'est le point d'orgue qui est enrichi par tout ce qui a précédé. Alors, je voudrais encore m'arrêter sur un point. Dans ce dernier verset, Daniel remercie le Dieu de ses pères. Et ça signifie ou ça implique beaucoup de choses. Les pères, ce sont les ancêtres, et Daniel disait cela parce qu'il faisait partie du peuple d'Israël, et parce que dans l'ancienne alliance, le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Il avait choisi ce peuple pour se révéler et être son Dieu. Mais c'est vrai pour nous aujourd'hui aussi, parce que l'Église, c'est la continuation de l'Israël de l'Ancien Testament. Et pour comprendre ça, on peut prendre des textes. Il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament qui disent cela, dans l'Ancien aussi. Comme par exemple Romains 2. Dans ce chapitre, Paul explique que les Juifs, les vrais Juifs, ce sont ceux qui sont circoncis de cœur par l'Esprit. Dans le chapitre 4, Paul explique que les vrais fils d'Abraham, ce sont tous les croyants, y compris les non-juifs. Dans sa première lettre, Pierre y donne à l'Église des titres que Dieu avait donnés au peuple d'Israël au mont Sinaï. Par exemple, peuple élu, royaume de prêtres, nation sainte. Et il y a encore beaucoup d'autres textes. Donc, quand Daniel parle du Dieu de ses pères, ça serait faux qu'on s'exclue de cette prière sous prétexte qu'on n'est pas juif. Quand Daniel prie le Dieu de ses pères, on est invité à s'associer pleinement et de la même façon qu'aux autres éléments de cette prière. Alors qu'est-ce que ça implique de dire « Je te loue, Dieu de mes pères » ? Ça implique plusieurs choses. Ça implique que notre relation à Dieu, comme Daniel, nous ne l'avons pas inventée. On s'inscrit dans une histoire, on n'est ni les premiers ni les seuls à prier. Et ce serait faux de concevoir notre vie de piété comme étant reliée à rien ou pas grand-chose de ce qui nous a précédé. Je te loue, Dieu de mes pères. Ça implique que le Dieu que nous connaissons et prions s'est révélé depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il est juste d'apprendre à le connaître par la Bible, par les histoires qu'elle contient. C'est pas juste de pas se nourrir par la Bible. Je te loue, Dieu de mes pères. Ce lien au passé n'est pas un frein. Une entrave, une gêne. Ce lien au passé, c'est une chance, c'est un atout. Et je vais encore vous partager quelque chose. Je resterai toujours émue par une prédication que j'ai entendue dans le cadre d'une de nos conventions d'église. Une méditation sur le fait que Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il l'a fait à plein de reprises quand il se présente à des croyants dans l'Ancien Testament. Il dit voilà. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les patriarches du peuple d'Israël. » Les grandes lignes de cette prédication, alors je vous rassure, je vais faire une deuxième prédication, je fais juste un petit résumé. Alors les grandes lignes de cette prédication, qu'a fait Abraham ? Abraham a cru, il a mis sa foi en action, c'est admirable. Abraham a aussi fait des bourdes, des grosses erreurs. Et Dieu n'a pas honte de se présenter comme étant son Dieu. Qu'a fait Isaac ? Après la vie de son père Abraham, la vie d'Isaac paraît moins intéressante. C'est celui qui a tout reçu en héritage. Il est béni. Dieu se présente comme étant son Dieu. Jacob était le trompeur. Le mensonge, ça ne le dérangeait pas, il en a usé et abusé. Il a fallu un long cheminement jusqu'à ce qu'il capitule devant Dieu. Dieu n'a pas honte de se présenter comme étant son Dieu. Dieu de mes pères. Cette expression ne met pas en valeur les pères, elle met en valeur le caractère de Dieu qui accepte de faire route avec les êtres humains, quels qu'ils soient, de prendre soin de chacun, de chacune. Dieu de mes pères, cette expression montre toute la générosité de Dieu, le don de lui-même dont il fait preuve. Il ne reste pas majestueux et inaccessible dans son monde de gloire. Oui, la lumière brille auprès de lui, mais ne l'enferme pas. Il vient vers les humains, il vient vers nous, il vient vers toi. Dieu de mes pères, Dieu des hommes, des êtres humains, hommes et femmes. Dieu veut être ton Dieu. L'accepteras-tu comme ton Dieu ? Je te loue, Dieu de mes pères. Dans une situation de grand stress, Daniel reste maître de lui-même parce que Dieu est son rocher. En réponse à sa prière intense et à celle de ses amis, Dieu accorde une magnifique délivrance qui conduit Daniel à ce cri de reconnaissance. Loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et il élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Tu m'as rempli de sagesse et de force. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue, dès maintenant et à toujours. Amen.